Les rencontres d'Edmond Morel. Jacques Richard, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, intitulé « Petit traître », paru aux éditions Albertine. Alors, un mot tout d'abord sur les éditions Albertine, qui publient, c'est le deuxième livre de vous que ces éditions publient. C'est quelle maison d'édition? Quel est le lien que vous avez avec eux?
Alors, c'est un lien qui, pour moi, est venu tardivement dans la publication de mon premier livre, qui était « La plage d'Oran », que j'ai envoyé à une bonne trentaine d'éditeurs avant de recevoir une réponse, tardive par rapport à mon envoi, parce que le manuscrit s'était perdu. Dès que l'éditeur l'a eu en main, il m'a répondu dans les quelques jours qui ont suivi. C'était, a-t-il dit publiquement, le premier manuscrit qu'il publiait sur envoi postal. Le reste du temps, ce monsieur qui donc est le fondateur des éditions Albertine à Paris ne publiait que des textes de gens qu'il connaissait personnellement ou par des tiers. Voilà. Donc il était très content de cette première publication qui venait de Belgique de surcroît, bien que je sois français. Et nous sommes entrés en sympathie d'abord littéraire et puis en sympathie tout court. Autour de mon premier texte. Voilà.
Alors, petit traître, on va entrer dans ce livre-ci, que je n'ai pas qualifié ni de roman, ni de récit, ni de recueil poétique, parce que les trois éléments, me semble-t-il, s'entrecroisent. Il y a une dimension poétique donnée à un récit de vie qui est transformé par l'écriture littéraire. Est-ce que ça vous convient comme approche?
Mais d'autant plus que j'ai été subsidié par le CNL à Paris dans la catégorie poésie. Voilà. Alors, j'ai l'éditeur qui sollicitait en France, c'est comme ça que ça se passe, est venu me dire: Jacques, tu as reçu un subside à l'unanimité en catégorie poésie, etc. Voilà.
Et comment avez-vous présenté le projet à ce moment-là au CNL?
Mais c'est pas moi qui l'ai présenté, c'est l'éditeur, donc Dominique Tassel.
Déjà à l'état de texte terminé, alors?
À l'état de texte terminé. Antérieurement, j'avais reçu une bourse de la communauté française de la promotion des lettres belges, quand le manuscrit est encore à l'état d'ébauche, et qui avait été reçu au titre de récit ou de roman. Donc les trois sont bons. En plus, bon, il commençait le livre a été retenu comme finaliste au prix Rossel, et là c'était dans la catégorie roman ou récit. Donc pour moi, tout ça, la question du genre littéraire qui agite pas mal de monde, particulièrement en France où ils sont quand même relativement compartimentés pour ce genre de choses, me semble assez périphérique, somme toute. Il est question de faire de la littérature le mieux possible. Ça prend le vecteur de la poésie ou de la prose, et pour moi les deux sont intimement liés, pour ne pas dire indissolubles.
Est-ce qu'on pourrait dire que dans la dimension récit de ce livre, il y a une part d'autobiographie qui a nourri la démarche de l'écriture, en tout cas une part de biographie, puisque le personnage est un petit garçon qui est enfermé dans une sorte d'orphelinat. Au fur et à mesure on avance dans le livre, on s'aperçoit par les sensations qui sont décrites, des sensations de lumière, de paysage, d'environnement, que cela se passe en Algérie et qu'on est à l'époque de ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie, qui était la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on peut comment est née d'une certaine manière la démarche d'écrire cette histoire-là?
Alors, c'est autobiographique, première réponse. C'est les derniers moments de ma vie en Algérie, donc qui s'est terminée cette période-là en février 1960. C'est pas évidemment ce qui s'est passé, c'est ce que j'en ai retenu, et mieux que ça encore, ce que j'en étais capable d'écrire. Ce qui fait encore une différence. On sait très bien, nous qui écrivons, que les mots prennent la place petit à petit de ce qu'ils énoncent, de ce qu'ils racontent, disons. Et donc, il est question d'autobiographie, et là encore, il est question de littérature qui prend la place de la biographie, l'autobiographie, petit à petit. Il est bien question de l'Algérie où j'ai vécu et dont je me sens définitivement en exil. La Belgique est le pays où je suis né, mais l'Algérie est le pays qui est le mien.
Et ceci dit, on peut le sentir parce qu'à un moment donné, en lisant la dimension poétique de l'écriture, parce que pour moi, il y a cette dimension-là, je pensais à la même type de poésie que celle d'Albert Camus, par exemple, lorsqu'il évoque certaines lumières, certaines vibrations, je dirais presque, de l'air. Qui lui permet d'évoquer en fait un état d'esprit à travers un état du temps qu'il fait.
C'est Camus, c'est un parallèle que pratiquement tous ceux qui parlent de littérature à propos de mon livre ont fait. C'est presque automatique. Alors il y a une ou deux réponses qu'on peut donner à cela. La première, c'est que Camus a écrit Noce, à quoi ça fait souvent, à quoi on l'a souvent comparé, mon petit bouquin, en exil aussi, avec ce que ça suppose de douleur, de reconstitution, de la lumière, entre autres, comme vous dites, et autres. Donc la douleur de l'exil, principalement, et puis toute la poésie qui se dégage, qui naît de cela.
Si vous voulez, je lis le premier paragraphe du livre pour qu'on se rende bien compte, pour ceux qui n'ont pas lu le livre encore.
On va faire ça tout de suite, sinon je vais perdre mon idée. Ah, la deuxième, pardon, qui affirmerait plutôt cette tendance à la comparaison, c'est que, et ça c'est Mertens qui m'a dit ça, Pierre Mertens qui m'a dit ça, après avoir lu mon premier livre, il n'y a pas moyen de parler de certaines choses sans utiliser finalement les mêmes images, le même vocabulaire, les mêmes connotations. Parce qu'il n'y a pas un million de façons de parler du soleil, il n'y a pas un million de façons de parler de la guerre, il n'y a pas un million de façons de parler de l'amour d'un lieu, quand ce lieu est tellement, tellement défini, tellement connoté. Les Arabes d'Algérie, les Algériens actuels, parlent vraisemblablement assez différemment de l'Algérie que j'en parle ou que Camus en parlait. Nous avons une culture de Français ayant vécu dans un pays que nous avons vécu comme nôtre, ce qui ne veut pas dire qu'il l'était. Je ne suis pas du tout nostalgique de la colonisation, hein, c'est tout le contraire. Mais nous avons vécu ce pays comme nôtre. Je suis un Algérien en exil.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que ce pays qui est le vôtre à vous et à Camus est aussi celui de l'enfance que l'un et l'autre vous évoquez, Camus notamment dans son tout dernier roman Le Premier Homme, et vous finalement dans ce livre Le Petit Traître, nous sommes à hauteur d'enfant, nous sommes à sensibilité d'enfant, même si ce qui est dit est écrit par une main adulte.
Mais oui, bien sûr, hein, je profite de l'occasion pour dire que c'est extrêmement flatteur pour moi d'être comparé à Camus. On vient encore de le faire publiquement en comparant mon texte à ce qu'il y a de mieux dans Noce. Donc je suis très très touché de ça, bien sûr. Oui, il y a ça, évidemment. Il y a ce double exil du lieu et du temps. Donc du lieu l'Algérie, du temps de l'enfance, bien sûr.
D'autant plus que, ici on entre dans le récit, d'autant plus que l'exil est double pour cet enfant, puisqu'il est exilé de ses parents, se trouvant enfermé dans un orphelinat auquel n'a accès pour des visites occasionnelles que sa mère, puisque le père, on le découvre, est lui aussi absent. Mmh. Alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est un récit poétique d'un enfant prisonnier et qui est confronté finalement aux trois éléments qui constituent ce type de situation, l'injustice, l'incompréhension et l'indicible.
Oui, c'est ça, l'indicible certainement. Ce bouquin, ce petit livre est une tentative qui passe par la poésie pour dire l'indicible. Voilà, pour et en tout cas essayer d'y rassembler des mots plutôt que de dire. Hein. Il est plutôt question de ça. Voilà. Quant à ce qui est de l'exil, plutôt de
l'injustice et l'incompréhension. Pardon. Ce sont des termes que vous refoulez ou bien
non, c'est pas. Il n'y a pas question de refoulement. Injustice. Il n'y a pas cette question-là de juste ou pas juste. Il y a la question du pourquoi, de l'incompréhension. Avoir affaire au monde, c'est avoir affaire à l'injustice. Et ça, je crois qu'on le sait, même si on n'arrive pas à le dire, on le sait d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, on sait qu'on a affaire tout le temps à ça, à l'injustice. Au fait que ça n'existe pas, en fait. C'est pour ça qu'on fait des ministères.
Le livre est daté de, à Bruxelles, 2010-2011. Les événements qu'il relate se situent en 1960. Est-ce que cela veut dire qu'il faut 50 ans pour franchir la barrière qui séparait cet enfant de sa maman ?
Je me dis que oui. Je me dis que oui. C'est-à-dire que, pour prendre cette question de la barrière qui séparait l'enfant de la mère, il s'est trouvé que le retour à la mère a correspondu à l'exil du pays. Jour pour jour. C'était sans que ce soit pour autant un donnant-donnant. Mais oui, il a fallu tout ce temps-là, oui. Et d'autres circonstances qui ne sont pas relatées là-dedans ou à peine évoquées, on fait aussi que beaucoup de silence s'est installé. Ceci n'a aucune, je ne pense pas quand même, aucune vertu cathartique, aucun désir de faire catharsis, de nettoyer le terrain, disons, hein, par rapport aux souffrances que j'ai vécues à ce moment-là. C'était quelque chose qui me semblait non seulement indicible, mais totalement inintéressant.
Oui, ici, pour préciser quand même les choses, on n'est pas du tout ici dans une autofiction, dans une autobiographie où le narrateur serait l'auteur et qui se complaît dans une espèce... Bon. On est très très loin de ça. C'est pour ça que je voulais lire, mais vous n'avez pas...
Mais allons-y.
C'est pour ça que je voulais lire le premier paragraphe. La promenade traîne dans l'après-midi. Un peu de sieste encore et de 4 heures en bouche. On rentre. Tout est roux, poussière de soleil aux palmiers de la place, des mimosas sont passés, ténus et longs dans les narines. Alors rien que dans ce paragraphe, d'une certaine manière, tout est déjà dit. On est au niveau de l'enfant, il y a le goûter, il y a la sieste, on est au niveau du soleil, il y a l'odeur, le parfum des mimosas longs dans les narines, et puis on a le temps qui s'éternise, la promenade traîne dans l'après-midi. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, est développé par le livre, par la suite, à travers le choix d'un « on » indéfini pour le narrateur. Oui. D'où est venu ce « on » ? C'était la seule manière d'être à la fois l'adulte qui se replonge dans le regard de l'enfant ?
C'est deux choses. D'abord, le refus de dire « je », de mettre ça à la première personne. Deuxièmement, le fait que ce qui se passe là, ce qui se passe dans beaucoup de cas, on est loin d'être tout seul à le vivre. Ce qui ne veut pas dire que c'est un vécu collectif, mais c'est un vécu, comment dire, partagé. J'aime pas beaucoup ce mot-là non plus. Mais on n'est pas, même si on est tout à fait seul, d'autres vivent des choses comme ça, simultanément, antérieurement, ultérieurement, peu importe. Hein. Et puis l'indéfinition dans du « on » dans cette affaire-là est une manière aussi de nier la personne comme un individu qui peut prendre quelque chose comme un sort, un destin en main, si peu que ce soit. C'est un « on » qui objectise, chosifie en quelque sorte, et il m'a semblé que c'était pas mal de mettre ça. Même si on me l'a reproché par ailleurs quelquefois ou l'autre.
Dans mon chef, ce n'était pas du tout un reproche. Au contraire, c'était vraiment un choix. Et j'essaie d'identifier
un choix délibéré.
En quoi ce choix vous était nécessaire et en quoi ce choix, mais vous y avez répondu, apporte au lecteur cette sensation d'une certaine manière d'empathie plutôt que de partage.
C'est ça, c'est plutôt l'empathie que le partage, exactement. aussi le fait que la narration, délibérément, cette fois-là, comment dire, laisse au lecteur une sensation, j'espère, de flottement, d'indécision, d'indéfini. Je ne dis pas immédiatement de quel monde il s'agit, de façon circonstanciée. Il s'agit bien évidemment de l'assistance publique dans ce qu'elle a eu le plus horrible à la fin de la décolonisation, afin de cette façon-là de gérer l'enfance abandonnée. Mais ça ne se dit pas tout de suite parce que je n'ai pas envie de jouer à River Twist. Ce n'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Et si petit à petit on se rend compte à quel point la situation est ce qu'elle est, tant mieux que ce soit, que ça passe, mais c'est pas primordial. Ce qui se passe, c'est que c'est une espèce de non-monde.
On est loin d'Oliver Twist aussi, dans la mesure où, d'une certaine manière, la détresse matérielle n'est pas évoquée. C'est davantage une détresse, un désarroi de l'abandon.
Oui, c'est ça.
Et un désarroi de l'enfant qui voit sa mère lui rendre visite, qui vient par exemple, c'est une des scènes les plus émouvantes du roman, qui voit sa mère qui vient à l'heure et au jour qui n'est pas celui des visites. Et il y a là une sorte de dialogue muet à trois personnes, le surveillant, enfin celui qu'on pense être le surveillant, le directeur, la mère et le petit garçon et son petit frère, ou en tout cas ils sont deux les enfants. Mais il y en a un qui prévaut d'une certaine manière. Et là, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout une détresse matérielle, mais une détresse purement subjective, métaphorique presque.
C'est ça. Le mot métaphore tombe à pic. J'allais dire que la détresse de l'enfant dans cette affaire-là, et c'est pour ça que j'utilisais le « on », pour y revenir une seconde, et la détresse de tout un chacun, la détresse d'être au monde de cette façon-là ou d'une autre, encore une fois, le lieu, l'enclos, je dirais presque, et l'histoire du chien fait référence à ça aussi de façon gigogne, est un peu une métonymie de l'enclos où nous sommes sur la terre. Donc là, c'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup tenu quand j'écrivais ce livre, qui s'est fait de jour pendant que je l'écrivais. La situation de ce gosse enclavé est un reflet de notre situation, de notre déréliction d'humain. Voilà.
Est-ce que vous avez le sentiment que le temps de l'écriture a permis de, en quelque sorte, non pas de cicatriser, mais de matérialiser ce qui était immatériel dans la souffrance ou le désarroi de l'enfant?
Matérialiser comment?
Par l'écriture, matérialiser. Pardon. C'est-à-dire que vous avez pu trouver d'une certaine manière la formulation, entre autres, de cette dimension du temps qui est en même temps trop long, en même temps trop court. Et j'ai le sentiment que ceci vient aussi du rythme que vous donnez à l'écriture.
Non, cette affaire du temps trop long, trop court, j'ai déjà formulé ça à l'époque, étant très très très, donc très, très jeune, j'avais 8 ans et demi, et cette sensation était extrêmement présente.
Vous pouvez la décrire parce qu'elle fait référence à un chapitre en particulier.
Oui, je vois très bien.
Lors d'une visite, l'enfant trouve que le temps est en même temps trop court, trop long.
C'est ça.
Parce que ça vient de débuter, que ça va s'arrêter de toute
façon
trop vite.
Donc cette affaire du temps, du temps qui se négocie presque seconde par seconde, c'est quelque chose qui est une douleur permanente. Nous le voyons filer entre nos doigts comme de l'eau, comme du sable. Et avec l'impossibilité de faire quoi que ce soit d'autre que de le subir. Dans cette histoire-là, cette douleur du temps qui fuit prenait une acuité tout à fait insupportable, d'autant plus que le moment fatidique donc de la présence de quelqu'un qu'on attend, qu'on aime, dont on a besoin, est encore pire que les moments où il n'est pas là. L'attente est presque moins douloureuse que sa résolution. Voilà.
Est-ce que Jacques Richard, aujourd'hui, après avoir écrit ce livre, Vous pourriez nous donner une réponse à cette question que je pose à tous les écrivains et que j'ai déjà posée lors d'une rencontre publique que nous avions et à laquelle vous avez peut-être réfléchi depuis lors. Est-ce que vous réfléchissez différemment, je veux dire, parce que chaque formule, chaque proposition est différente en fonction du temps au cours duquel on la formule. À quoi sert la littérature d'une certaine manière?
Alors, c'est quelque chose que l'autre jour, effectivement, j'étais un petit peu loin de ça, mais c'est quelque chose sur quoi j'ai déjà pas mal réfléchi, peut-être pas que bien ou pas bien, peu importe. La littérature, pour moi, c'est comme toutes les formes du langage. C'est une des formes du langage, une des plus sophistiquées, disons la poésie, une des formes les plus sophistiquées de nos langages. Nous n'avons pas qu'un seul, il y a celui de la musique, qui est un cas à part, je crois. Il y a celui de la peinture, qui est un langage que je pratique, que j'ai pratiqué pratiquement toute ma vie, dirais-je, une quarantaine d'années certainement, et qui est que nous avons besoin, nous sommes une espèce qui a besoin de miroir. Nous sommes la seule espèce qui nous regardons de cette façon-là. Nous avons besoin, comme disait Giuseppe Santoliquido l'autre jour, nous avons besoin de mettre les choses à distance. Il ne s'agit pas de mettre à distance, nous embrassons nos miroirs. Comme nous sommes adolescents, nous cherchons le baiser, nous embrassons nos miroirs. Mais il s'agit bien plutôt d'avoir des miroirs. Tout ce qui est de l'ordre du langage, pour moi, est de l'ordre de la réflexion, au sens de réflexion d'un rayon, hein, de la réflexion de notre propre regard. Nous regardons vivre, nous avons besoin de nous regarder, de nous apprécier à distance. Et je crois que la littérature fait partie de ça. Nous avons besoin de sortir du cercle dans lequel nous tournons. Je pense que les formes du langage, l'art, la littérature, sont les moyens que nous mettons à notre disposition, balbutiant évidemment, ipso facto, sont les moyens que nous mettons à notre disposition pour tenter ça.
Est-ce que je comprends bien que vous êtes aussi peintre et aussi musicien? Parce que je ne connais pas votre biographie, finalement. On ne parle que du livre.
J'ai une formation supérieure de musicien. Oui, j'ai été flûte conservatoire, que j'ai interrompu pour me mettre à faire de la peinture, ce qui est devenu mon métier. Donc, je suis peintre, j'enseigne le dessin, j'enseigne la peinture, j'anime... je suis professeur d'une école supérieure et j'anime un atelier ici à Scarbeck, qui est, ma foi, assez bien fréquenté.
Est-ce que dans cette configuration-là, vous avez une explication, si tant est qu'il en faut une, à la nécessité d'écrire, d'en venir à l'écriture en quelque sorte? Parce que vous êtes nouveau dans l'écriture.
Et ancien. Je suis nouveau dans le monde de la littérature qui se publie, mais je ne suis pas. J'ai écrit. Depuis l'âge de 9-10 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, pratiquement tous les jours. Tout ça a disparu. J'ai écrit énormément de poèmes, j'ai lu énormément de poèmes. Mon style s'en est trouvé influencé, puisqu'ils ont mon repère, un style. Donc la littérature, ce n'est pas une découverte, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé. Quelqu'un que j'ai revu et puis que je me dis, tiens, on va se remettre ensemble.
Et la peinture, alors, inversement, c'est que vous l'avez un peu plus abandonnée ou elle est
non,
devenue...
Non, pas du tout.
Non, c'est ça, c'était pas l'un ou l'autre.
Non, je n'ai pas du tout abandonné la peinture. Elle occupe tous mes jours. La littérature occupe tous mes jours aussi, tout mon temps. Ce sont deux choses très différentes. Et quand je suis dans l'une, je ne peux que difficilement être dans l'autre. Pour l'instant, je suis beaucoup, beaucoup dans l'écriture, puisque je vais sortir un troisième bouquin, un recueil de nouvelles. Je suis en train de terminer un quatrième livre là, ces jours-ci, pardon. Mais mon atelier est très très animé. Celui que j'ai en haut là, il y a un tableau en chantier. Et tout cela fonctionne. Oui, il y a même plusieurs tableaux en chantier.
Très bien, Jacques Richard, ça fera l'objet d'une autre interview alors sur l'activité et l'art du peintre. Je rappelle, en vous remerciant pour cette interview, le titre du dernier livre que vous publiez. Je prends un peu de note qu'un recueil de nouvelles est en préparation.
Ça s'appellera L'homme peut-être.
L'homme peut-être, voilà. Édition Albertine aussi.
Non, je suis pas chez Albertine, qui arrête malheureusement, parce que pour des problèmes de santé et d'autres, ses activités. Ce sera publié en France aussi chez Zellige.
Ah, très bien. Donc chez Zellige, on attend votre prochain recueil de nouvelles. Ce livre à propos duquel nous nous sommes entretenus porte le titre de Petit Traître, un très beau titre par ailleurs. Petit Traître, paru donc chez Albertine. Jacques Richard, je vous remercie pour cet entretien.
Merci à vous.
Les rencontres d'Edmond Morel.